166. Des cieux pour
On lit ensemble le chapitre 13 de Genèse. Genèse 13. Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il s'en alla en ses traites du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Aï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. Et Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. Et Lot aussi, qui allait avec Abraham, avait du menu et du gros bétail et des tentes. Et le pays ne pouvait les porter pour qu'ils habitent ensemble, car leur bien était grand, et ils ne pouvaient habiter ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananiens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était arrosée partout avant que l'Éternel détruise le Sodome et Gomorre, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte quand tu viens à Tsoar. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et Lot partit vers l'Orient. Et se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi et vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Et Abraham leva ses tentes et vint et habita auprès des chênes de Mamré qui sont à Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Jusque-là, nous lisons au début la parole de Dieu. Nous sommes dans le chapitre 13, dans la première partie de la vie d'Abraham. Ça veut dire de ce récit que Moïse donne de la vie d'Abraham. Et ces trois chapitres, 12 à 14, inclus les derniers versets du chapitre 11, nous montrent, pour ainsi dire, la vie extérieure d'Abraham. Ça veut dire Dieu montre et regarde vers les étapes que Abraham a prises, pour ainsi dire, extérieurement. On ne voit pas, premièrement, ou avant tous les sentiments d'Abraham intérieurs, mais on voit plutôt les décisions qu'il a faites et le chemin qu'il a marché. Et Dieu regarde aussi nos chemins. Il regarde aussi ce que sont nos décisions de la vie. Et quelquefois, comme ici aussi, notre environnement voit la même chose. Certainement, Dieu peut regarder dans nos cœurs, mais mes frères, mes sœurs, mes voisins, mes collègues, et peuvent juste regarder l'extérieur de moi. Et qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient un chemin qui est avec Dieu ou un chemin qui est pour moi? Un chemin où le moi est dans le centre. Avec Abraham, comme l'apôtre dit dans le Nouveau Testament, le père des croyants, le père de la foi. Lui, en général, il était marqué par la foi. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux et prend beaucoup de temps pour décrire la foi d'Abraham, plus que d'autres personnes. Et montre vraiment les décisions de cette foi d'Abraham. Déjà, de partir de la Mésopotamie, de Ur, pour marcher à un autre endroit qu'il n'avait pas connu avant. C'est déjà quelque chose. Je ne crois pas que Dieu attend cela de moi, de nous aujourd'hui. Si on déménage, on sait où. Si on fait cette décision de servir le Seigneur dans un autre pays, on a normalement eu la possibilité de regarder dans ce pays. Mais ce n'était pas le cas avec Abraham. Il a juste suivi l'appel de Dieu. C'est obéissance et c'est foi. Il est intéressant que, même si c'est dans le contexte d'évangélisation, ça veut dire concernant ceux qui étaient incrédules, qui sont devenus croyants, dans Romains 1 et Romains 16, deux fois, nous avons cette expression obéissance de foi, ou foi d'obéissance. Un mot lié ensemble, la foi et l'obéissance. Si quelqu'un est marqué par la foi, il est obéissant. Et quelqu'un qui est obéissant, il doit vivre par la foi. Et c'est le caractère de cet homme, Abraham. Abraham est vraiment un exemple pour nous. Mais en même temps, un avertissement. Je crois qu'on peut dire qu'il n'existe pas une personne aujourd'hui qui peut dire « j'ai une foi comparée à celui d'Abraham ». Par exemple, si on voit chapitre 22, où Abraham était obéissant à sacrifier son fils. C'est personne aujourd'hui qui reçoit cet ordre. Certainement pas, parce que Dieu ne veut pas qu'un homme est sacrifié. C'est juste lui qui a fait cela avec son fils. Et de le faire avec cette foi que Dieu va ressusciter son fils d'entre les morts. Parce que Abraham a su que Dieu va le bénir et bénir les descendants et les nations par Isaac. Parce que Dieu l'a expressément dit. Il a dit, par ton fils, par lui sera béni les nations, les descendants. Et Dieu a demandé à lui de sacrifier exactement celui dans lequel les bénédictions étaient données. Alors Abraham a, comme Hébreux 11 nous montre, vraiment cru que Dieu va ressusciter son fils. Et nous avons beaucoup d'exemples pour cela. Trois dans l'Ancien Testament, trois dans la vie du Seigneur, le Seigneur lui-même, et même après dans la vie des apôtres. Mais Abraham n'avait pas un exemple pour cela. Et quand même, il a cru. Il a obéi à Dieu. Ça montre vraiment une foi extraordinaire. Et Abraham n'a pas eu la parole de Dieu. Il a eu une parole de Dieu, que Dieu a parlé à lui. Mais nous avons toute la Bible avec autant des exemples. Abraham n'était pas capable de s'appuyer sur une œuvre accomplie. Ça n'existait pas encore. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit habitant en lui. Et quand même, il était marqué par cette foi. C'est vraiment une exhortation pour nous et en même temps certainement aussi un encouragement. Si lui était capable de vivre par cette foi, nous aussi certainement, parce que nous avons beaucoup plus. Et peut-être parce que nous sommes dans un temps plus tard, parce que nous avons tout dans la Bible, on fait des choses souvent plus compliquées qu'Abraham. C'était un simple foi. Il a entendu ce que Dieu a voulu et l'a fait. Avec cette foi. Un exemple. Mais, lui est un avertissement. C'était le début de ces phrases maintenant. Elle est aussi un avertissement parce que si un homme avec cette foi peut tomber, chapitre 12, où il a nié sa relation avec sa femme. Une grave erreur. Ce n'est pas comme un mensonge. Ce n'est pas comme attaquer quelqu'un. Nier sa femme, c'est comme les exemples de 1 Corinthiens 5, certainement. Fornication. Parce qu'il a donné sa femme à un autre homme. Qu'il voulait la marier, être ensemble avec elle. Et Dieu a intervenu dans sa grâce. Mais si un homme comme lui peut tomber si grandement, c'est certainement un avertissement pour nous que nous, avec cette petite foi, nous pouvons tomber plus que lui. Et pour cela, je crois, cette histoire est écrite pour notre exhortation, comme okay, aussi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, n'est-ce pas? Mais une grande chose qu'on peut voir ici, chapitre 13, verset 1, « Et Abraham monta d'Égypte vers le Midi, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui et Lot avec lui. » Abraham a trouvé le point de revenir, de confesser. Certainement, ce n'est pas écrit ici. Mais on voit qu'il y avait une œuvre de Dieu dans son cœur, dans sa conscience, de renouvellement. Il a vraiment, on peut dire, s'est humilié sous cette erreur. Je ne sais pas combien d'erreurs, combien de péchés j'ai commis, et toi? Et certainement, il ne faut pas repentir après chaque péché. Repentance veut dire retourner. Et il faut retourner si on est sur un faux chemin. Si avec chaque péché, le résultat sera repentance, les yeux seront toujours seulement sur le bas, sur moi-même. Et on va résigner après un certain temps. C'est la tristesse. Nous avons besoin le regard vers le Seigneur. Alors, ce n'est pas ce que la parole nous dit, qu'après chaque péché, il faut une repentance. Pour les pécheurs, certainement, il faut une repentance. Il faut vraiment 180 degrés de retour. Et nous trouvons dans le Nouveau Testament, disons pour les Éphésiens, et le Seigneur les exhorte de repentir sur leur chemin qui était faux. Et si le chemin est faux dans ma vie, si je vis dans le péché, si j'ai vécu une vie pour un certain temps où je me suis éloigné de mon Seigneur, il faut retourner, il faut une repentance vraie. Mais avec un péché, l'apôtre dit, Jean 1, Jean 1, verset 9, il faut confesser. Confesser et de nouveau vivre avec le Seigneur. Mais ici, avec Abraham, c'était vraiment une mauvaise condition, état dans sa vie. Il fallait vraiment accomplir repentance. Et j'en suis sûr que chacun de nous connaît les situations dans sa vie où ce n'est pas seulement un péché, mais ça ne doit pas être un état mauvais comme 1 Corinthiens 5, mais quand même un chemin qui n'est plus vraiment pratiquement avec le Seigneur. Et il peut arriver aussi des péchés graves qui ne sont pas encore des péchés, des états comme 1 Corinthiens 5. Mais une impureté dans nos vies peut être pas seulement une fois, deux fois, mais pour un certain temps. Des choses vraiment, des attitudes, des motifs dans nos vies qui sont vraiment des péchés. Alors, est-ce que nous trouvons ce temps et cette énergie de vraiment repentir, de revenir? On a dit, avec justice, il est facile de partir du Seigneur. Et ça va très vite. Et il dure beaucoup plus longtemps de revenir vers le Seigneur. Ça dure du temps. On voit par exemple dans Nombre 19, cette génousse rouge, qu'il fallait mettre ce lot de purification sur cette personne le troisième et le septième jour. Ça dure du temps. Il ne faut pas les prendre littéralement pour nous, troisième, septième jour. C'est une signification symbolisée, ça symbolise des choses. Mais pour nous, quand même, ça dure. On ne peut pas, s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec le Seigneur, il faut un temps pour comprendre, pour être conscient de cela et pour revenir. Il faut une énergie, parce que ce temps est pour notre honte et certainement pour le déshonneur du Seigneur. Il faut avoir une conscience de cela et ça dure du temps. Mais Abraham a monté d'Égypte, il est revenu. Et ça, c'est magnifique. Il n'y a aucun péché qui existe. Il n'y a aucun état qui peut exister duquel on ne peut pas revenir. Il n'est jamais trop tard, avant la venue du Seigneur certainement, de revenir. Et le Seigneur veut que nous utilisons le temps qu'il nous donne pour revenir vers lui. Abraham a fait cela. Il a monté d'Égypte, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui. Et on lit verset 3, « Et il s'en alla en ses traites du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. » On voit ces choses dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12, versets 7 et 8, on voit cet autel, ou plutôt verset 8, cet deuxième autel de sa vie, et aussi cette tente, et cette place entre Bethel et Haï. Et il est vraiment revenu à cette place. Ça nous montre que ce renouvellement était complet avec lui. Ce n'était pas partiel seulement. Il est revenu vraiment à cette place de laquelle elle est sortie et partie, où sa chute, pour ainsi dire, a commencé. J'ai peur qu'aujourd'hui, plusieurs restent entre les deux points. On peut l'appliquer sur des choses personnelles, privées, individuelles. Dans ma vie, où il y a quelque chose qui est vraiment mauvaise et où je vois cela, il y a une certaine repentance, mais je ne prends pas l'énergie, la force que le Seigneur me donne pour revenir à le point de départ. Mais je reste un peu entre les deux pôles. Je reste un peu avec le monde, un peu avec le Seigneur. Je vois l'erreur, mais je ne suis pas conséquent comme Abraham. Et c'est dommage, parce que ça ne peut pas être une vie de joie, vraiment. Et ça existe aussi collectivement, ou disons, concernant le chemin collectif. On a vu ceux qui sont tombés, pas seulement tombés, qu'ils ont vécu dans le péché, qui ont vraiment vu que c'était péché, qui ont eu une repentance vraie sur le péché dans lequel ils s'est trouvé pour un certain temps, mais ils ne sont pas revenus jusqu'à ce point de départ. Ils ont resté quelque part dans des milieux des croyants. C'est dommage, parce que ce n'est pas une repentance complète. Ce n'est pas un renouvellement complète. Et je crois qu'on connaît ces situations dans nos vies personnelles aussi. Qu'on a vu des choses, on a laissé une partie de ces choses, mais on reste avec quelque chose. Certainement, si on confesse, si on repentit, le Seigneur pardonne tout. Et quand même, il reste des résultats, il reste quelques résultats de ma vie dans le péché. Comme ici, on a lu dans le verset 2, il était maintenant très riche en troupeaux, en argent et en or, parce qu'il a reçu cela en Égypte. On peut être très reconnaissant à Dieu de sa miséricorde, que très souvent, ces restes, ces choses de cette vie sans le Seigneur n'existent plus. Ce n'est pas toujours qu'il y a encore des résultats, des conséquences de ma vie dans le péché ou sans le Seigneur. Certainement, souvent, quelquefois, c'est le cas. Si j'ai marié une personne incrédule, je vais vivre ma vie avec cette personne, même si je suis conscient que c'était faux. Ou d'autres conséquences qui peuvent être, comme ici. Même, on ne lit pas encore ici dans le chapitre 13 que Aga est venue avec eux. Mais plus tard, elle sera un problème dans la vie d'Abraham. Et n'oublions jamais qu'il y a aussi les lots dans nos vies qui nous voient, qui voient ce que nous faisons. Ça peut être mes enfants. Ça peut être la famille plus générale. Ça peut être les plus jeunes dans un rassemblement. Ceux qui n'ont pas la foi ou qui sont des croyants comme Lot, mais qui n'ont pas vraiment une foi vivante, pratique dans leur vie. Ils nous suivent. Et ils nous sont suivis peut-être dans des chemins bien, comme avec Abraham dans le chapitre 12 au début, mais ils nous suivent aussi dans les étapes qui ne sont pas d'après la personne et la vérité. Et alors, ils vont toujours avec nous. Ils n'ont pas appris vraiment de vivre directement en dépendance du Seigneur. Et il y a une certaine responsabilité de moi, de nous, envers ceux qui sont faibles, qui sont jeunes, qui sont comme le Seigneur dit dans, par exemple, l'Évangile selon Marc, je crois au début du chapitre 10. Parle de ceux qui étaient des petites, mais pas des petits-enfants seulement, mais il y a un autre mot qu'il utilise. Non, c'est chapitre 9 probablement déjà. Ringen heißt es en allemand. Bon, des personnes qui n'ont pas une capacité de vraiment en eux-mêmes suivre le Seigneur. Et nous avons une responsabilité envers eux. C'est la raison pour laquelle nous, comme des frères, des sœurs qui connaissent le Seigneur, qui voulaient vivre avec le Seigneur, qui sont pour eux les modèles, les exemples. Nous avons une toute autre responsabilité que nos enfants. 9:42, merci. 9. Et quiconque sera une occasion de chute pour un des petits, voilà, merci, qui croit en moi. Les petits ne sont pas seulement les enfants, mais les petits dans la foi, dans les yeux des hommes. Et quiconque sera une occasion de chute pour eux. Le Seigneur dit, mieux vaudrait pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de meule et qu'il soit jeté dans la mer. Très fort, les mots de notre Seigneur sur cela. Mais nous voyons ici quand même, Abraham est revenu. Il a de nouveau ces deux lieux à gauche et à droite, Bethel et Aï. Ça veut dire Aï, la ruine de ce monde. Il a une conscience maintenant, encore une fois, que le monde n'est rien qu'une ruine, qu'il ne peut rien trouver dans ce monde. Avant, il était en Égypte. Égypte est un symbole de ce monde. Et Égypte a une attraction pour notre chair. On peut trouver des choses en Égypte, mais seulement pour la chair. Et maintenant, de nouveau, il comprend le monde, c'est Aï, c'est une ruine. Ça ne m'aide pour rien du tout. Et en même temps, l'autre côté, Bethel, la maison de Dieu, et vit en communion avec cette maison de Dieu, avec la présence de Dieu, avec ceux qui forment la maison de Dieu d'après les pensées de Dieu. Certainement, dans le temps où il était en Égypte, il n'avait ni une tente, ni un hôtel. Être un pèlerin, être un étranger dans ce monde. On ne peut pas être si on est pratiquement dans le monde. Comment est-ce qu'ils peuvent voir en moi que je ne suis pas, que je n'appartiens pas à ce monde, si je vis pratiquement dans les choses de ce monde? Il faut se demander, mes voisins, mes collègues, est-ce qu'ils peuvent voir dans ma vie que j'ai une tente? Personne de nous habite dans une tente, mais est-ce que ma vie est comparée à une tente, que la terre est seulement mon habitation pour un certain temps, que mon but, mon essence, ma réalité, c'est le ciel. Et l'autel, cette relation avec Dieu, est-ce que cette relation est vraiment intacte en Égypte? Certainement pas. Comment est-ce que je peux avoir communion avec Dieu, une relation intacte, une relation active avec le Seigneur, si pratiquement je vis dans le monde? C'est impossible. Mais maintenant, et là, de nouveau, ces deux choses. Mais ça monte, c'est pas une troisième autel. C'est encore le deuxième. Ça nous montre, c'était un temps perdu. Est-ce que nous avons cette conscience qu'il existe des temps dans nos vies absolument perdus, utiles pour ainsi dire rien? Certainement, le Seigneur nous enseigne aussi par nos fautes, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessaire. Un temps où on a pu avoir des progrès et on a maintenant, si c'est encore comme avec Abraham, une confession, un renouvellement complet au même niveau qu'avant. Un temps perdu. On n'a pas un grand temps, longtemps sur la terre. Ça fait peut-être 80 ans. C'est court. On a vraiment, en comparaison avec l'éternité, le millénium, on a peu de temps. Est-ce que nous utilisons, est-ce que vous aussi, vous jeunes, est-ce que vous utilisons le temps que le Seigneur vous donne vraiment pour vivre pour le Seigneur, avec le Seigneur? Certainement aussi dans vos travails, comme l'apôtre dit dans Colossiens 3, on fait le travail pour le Seigneur Christ, Christ le Seigneur. Alors, est-ce que nous vraiment est-ce que nous vivons pour le Seigneur dans notre temps? Mais quand même, il était en retour, un renouvellement complet. Vraiment? Est-ce qu'il était vraiment, oui, renouvelé? Pourquoi? Est-ce qu'il est possible de tomber dans le même péché, dans ce même péché, encore une fois, chapitre 20, si tout était vraiment réglé? Ça me montre que ce n'était pas le cas. Extérieurement, il était renouvelé. C'était en ordre. Mais dans son cœur, apparemment, il y avait encore des choses qui n'étaient pas réglées. Et si on voit que Isaac a commis encore une fois le même péché, ça me montre que Abraham, dans son jugement de soi, n'était pas complet. Et parce que le même péché était commis encore avec Isaac, je crois qu'il y a des péchés dans nos vies où ce n'est pas suffisant de les régler avec le Seigneur, mais où il est nécessaire, au moins, de parler avec, pour moi, ma femme. Bon, ici, les deux ont fait cela, mais c'était la responsabilité d'Abraham. Et aussi en famille. Est-ce que Isaac a su comment Agar est entré dans la famille? Est-ce que Isaac a su comment ses problèmes sont arrivés dans la vie de cette famille? Apparemment pas. Il y a des erreurs et on voit, n'est-ce pas, dans nos familles, avant nous et nos familles aussi, que notre caractère, nos erreurs sont répétées par nos enfants, quelquefois par les petits-enfants, que les mêmes péchés sont continués dans les générations après. Quelquefois, il est nécessaire d'avertir nos enfants par une confession des péchés que nous avons commis. Je donne un exemple parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment une conscience de ses péchés. J'ai peur que presque aucun couple dont son fiançaille est resté complètement pur. Et je vois que ce problème se continue dans les générations plus tard. Est-ce que nous avons parlé avec nos enfants sur les dangers et sur les péchés que nous avons commis dans ce temps-là pour les aider de ne pas commettre les mêmes péchés que nous avons commis? Et il y a d'autres. Certainement, il n'est pas juste de parler avec chaque frère, chaque sœur sur chaque péché qu'on a commis. C'est certainement pas le sens de Jacques 5 où Jacques dit à nous, pour ainsi dire, dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris, etc. » Confessez donc vos fautes l'un à l'autre. Ne veut pas dire que chaque péché que j'ai commis, je confesse à chaque personne. Ici, Jacques parle de ces péchés que j'ai commis contre mon frère et certainement je dois les confesser envers lui. Mais dans la famille, il y a quand même une responsabilité plus haut. Et je vois dans la vie d'Abraham et Isaac et Jacob, que les mêmes erreurs étaient commises. Parce que si vous regardez la vie de Jacob, c'est encore une fois des choses bizarres, faux, dans les relations de lui, Jacob, avec ses femmes. Et ça me montre qu'il y a vraiment une... Ce n'est pas mystiquement... que ces choses arrivent encore une fois. C'est parce que une prochaine génération voit et sent ce que nous avons fait et répète cela. Alors, est-ce que nous avons vraiment agi en jugement de nous-mêmes complètement? Abraham n'a pas fait cela. Elle est un avertissement pour nous dans ce sens-là. À partir du verset 5, nous voyons que Lot était aussi maintenant riche. On voit quelqu'un qui nous suive seulement parce qu'il nous suit, parce qu'on a une relation avec nous, ou je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est fasciné par nous. Plus tôt ou plus tard, ça va causer des problèmes. Et tu dois te poser la question, est-ce que tu es comme un Lot qui suit d'autres personnes parce qu'ils ont une influence sur toi, parce qu'ils ont ils ont un certain charisme? Quelle est la raison pour laquelle je suis une personne? Je suis fasciné d'une personne. Je suis fasciné par un don. Est-ce que c'est vraiment la foi ou est-ce que c'est plutôt des choses extérieures? Et suivre quelqu'un est toujours dangereux. De laisser suivre quelqu'un est aussi dangereux. Dans plusieurs aspects, certainement. Mais suivre une personne et de ne pas suivre le Seigneur est très dangereux. Probablement, l'apôtre Paul a écrit dans Hébreux 13, l'écrivain de cet épître au moins, il a dit dans le chapitre 13, verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. » Ce n'est pas imiter cette personne, leurs habitudes, leur manière, leur vie, mais leur foi. C'est l'intérieur. La foi est invisible. La foi a les conséquences dans nos vies, certainement très concrètes. Mais la foi en elle-même, elle est invisible. Est-ce que nous suivons des personnes ou est-ce que nous suivons le Seigneur? Nous pouvons apprendre des choses par nos frères, nos sœurs, mais est-ce que nous suivons le Seigneur? Est-ce que moi, je veux que des personnes me suivent ou est-ce que je veux qu'ils suivent le Seigneur? Ce n'est pas seulement une question de ce que je dis. Normalement, personne ne veut dire « suis-moi ». Mais mon comportement peut être comme cela. Mais des Lot vit une vie très dangereuse. Comme on a vu, Lot a suivi Abraham. Et maintenant, on voit la première fois dans la vie de Lot la situation qu'il était nécessaire. Il n'avait aucune autre possibilité encore que de faire une décision. Et il n'a pas appris comment il faut faire une décision. Quelques-uns de nous sont des parents, pères, mères. Et un principe très, très important de l'éducation de nos enfants est de le faire capable de faire des décisions sans nous. Ils ne sont pas capables de cela avec 3 ans, 5 ans, peut-être 8 ans. Mais ils doivent l'apprendre. L'apprendre veut dire... Il faut donner l'occasion à nos enfants dans des choses, des petites choses, des petites décisions, premièrement, pour apprendre comment faire une décision. Et il faut alors les laisser faire les décisions. On ne peut pas dire, je te donne cette décision et après je le prends encore. Ça veut dire, il faut une certaine sagesse avec cela et aussi une certaine... maturité de laisser une décision même si ce n'est pas d'après mes pensées. Mais on peut parler avec eux sur la décision après, certainement. Mais je trouve que c'est beaucoup trop tard si mon enfant sort de ma maison qu'il commence à faire des décisions. Il doit apprendre les décisions avant. Parce que s'il sort, c'est trop tard de Dieu peut donner miséricorde, certainement, mais il doit apprendre cela pour être capable, quand il sort, part de ma maison, de prendre les décisions. Lot, ici, verset 10, a levé ses yeux. Il a fait cette décision par les yeux, par son cœur, par sa chair. C'est exactement ce que nous trouvons dans 1 Jean 2, les principes de ce monde. C'était les principes de ce choix de Lot. Quels sont les principes de mes choix de ma vie, moi comme père, moi comme frère, moi comme serviteur. Est-ce que c'est vraiment les yeux fixés sur le Seigneur? Comment est-ce que je peux glorifier le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment avec un cœur qui est rempli du Seigneur pour sentir, je peux faire cette décision, avec cette décision, je reste en communion avec lui? Est-ce que c'est avec les pieds qui suit une trace en communion avec le Seigneur et les croyants? Pour des décisions du travail, par exemple. Pour les décisions des vacances. Pour toute décision. Est-ce que c'est d'après les principes de la parole? Est-ce que je peux rester en communion avec les frères et sœurs sur le terrain de la Bible? Ou est-ce que ce sont des décisions où je me trouve à l'aise, mais plutôt ma chair? Lot est tombé. Je suis très sûr, quand il est dit ici dans le verset 12, Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il n'était pas à Sodome. À cette époque-là, probablement, il a pu savoir que les hommes de Sodome étaient méchants. Il aurait dit, jamais en Sodome. C'est juste jusqu'à Sodome. Mais si on s'approche de ce monde, plus tôt, plus tard, on a dans sa vie les principes de ce monde. On oublie qu'il faut être séparé de ce monde. Et on va toujours un pas plus proche à ses principes, à ce que caractérise ce monde. Abraham était le contraire, était encore avec sa tente, avec l'autel. Où est l'autel de Lot? On ne le trouve jamais. Ici, on lit encore, on a lu dans un verset qu'il a eu, il dressa ses tentes. Il avait encore des tentes. Mais plus tard, il a habité dans Sodome. Il n'y avait plus de tentes. On peut avoir sous dans les mains encore des tentes sans vivre dans les tentes. On veut qu'on est caractérisé par la tente, mais la vie peut être déjà différente. Un court mot encore sur les querelles ici. Il est très dommage, il est triste si nous, comme croyants, sommes caractérisés par des querelles, par les conflits. Certainement, la paix, ce n'est jamais le principe le plus haut. Ça veut dire le but final, ce n'est pas la paix. Au moins, la paix a une condition, comme nous lisons dans Hébreux 12, c'est la sainteté. On ne peut pas avoir la paix sans la sainteté. Mais en même temps, la sainteté nous dirige toujours vers la paix. Ça veut dire que les deux choses vont ensemble. C'est garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Ça veut dire que les deux choses sont liées. Et certainement, s'il y a une question de sainteté, il faut obéir Dieu, même si ça coûte la communion avec mon frère, ma sœur. Mais en même temps, personne ne peut dire la paix, c'est rien. Non, Dieu veut la paix. Nous voyons autant des passages dans la parole où Dieu nous exhorte de chercher, de poursuivre même la paix. Est-ce que je suis quelqu'un comme Abraham qui cherche a éliminé tout origine, tout base pour des querelles. Oui. Est-ce que nous sommes vraiment ceux qui sont humbles pour ne pas être des raisons pour des querelles parmi les frères et sœurs? Comme j'ai dit, si c'est une question des principes de la parole, de la sainteté, de la vérité, on doit poursuivre la vérité. Mais il y a aussi autant des cas, n'est-ce pas, où ce n'est pas une question de vérité. Est-ce que nous sommes humbles de pratiquer en fait ce que nous lisons dans Éphésiens 4 avant que l'apôtre parle directement de garder l'unité de l'esprit? Il dit dans Éphésiens 4 verset 3, non verset 2, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Et après, il dit, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais il commence par ces attitudes dans nos cœurs. On ne doit jamais les ignorer. Et s'il dit, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, il veut que nous le fassions. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à supporter? Et c'est vrai que c'est une question, c'est un verset qui s'applique au corps de Christ entier. Mais certainement, ça commence où j'habite. Est-ce que ces exhortations sont vraiment réalisées par nous? Il est bizarre que Lot n'offre pas à Abraham de choisir. À mon avis, ça montre déjà dans ce temps-là que le respect de l'âge, le respect d'une personne de responsabilité n'existait pas. Et j'ai l'impression que c'est le caractère en général dans la société aujourd'hui. Et toutes ces choses, des marques de la société, plutôt plus tard, entrent aussi dans le cercle des croyants. Est-ce que nous avons encore un respect biblique des frères et sœurs âgés? Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut les suivre, même s'ils disent des fausses choses, certainement pas. Mais quand même, Dieu nous montre que c'est normal d'avoir un respect devant les personnes âgées et certainement aussi devant les autorités que Dieu a données dans l'Assemblée. Dernière chose, à partir du verset 14 jusqu'à la fin, nous trouvons Abraham a laissé Lot choisir et peut-être après il a dit, mais quel est maintenant encore pour moi? Est-ce que toi, Dieu, a encore quelque chose pour moi? Et c'est avec Abraham que Dieu parle, pas avec Lot. Lui, il dit, lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident. Quatre dimensions. Ça fait nous penser, je crois, à Éphésiens 3, où Dieu parle aussi, où l'apôtre parle des quatre dimensions, en fait, de Canaan, ça veut dire du ciel. Ça veut dire des bénédictions célestes. Ils ont quatre dimensions. Et ça, certainement, a à faire aussi avec l'œuvre de Christ qui a ces quatre dimensions. Mais aussi, ces bénédictions sont si riches. Il y a autant de bénédictions qu'on peut suivre cette direction, les quatre directions, on ne va jamais arriver à la fin. Et j'ai la question pour moi, pour toi. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Et après, il dit, verset 17, lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large car je te le donnerai. Est-ce que nous avons déjà commencé à marcher dans ces bénédictions? Est-ce que nous connaissons ces bénédictions? Est-ce que nous goûtons? Est-ce que nous jouissons ces bénédictions? Est-ce que nous défendons ces bénédictions? C'est Éphésiens 6. Est-ce que ces bénédictions, ça veut dire Christ dans toute sa richesse céleste et les bénédictions qui sont liées à lui, est-ce que ça habite en mon cœur? Est-ce que ça remplit mon cœur ou quoi? Quelles sont des choses qui sont importantes pour moi? Est-ce que ce sont ces richesses et ces bénédictions? Vrai. Pour cela, il faut marcher comme Dieu dit à Josué, il faut mettre le pied sur eux. Ils sont à nous, mais si c'est seulement une théorie pour moi, que je ne peux pas dire quelles choses, quelles bénédictions sont vraies pour moi, comment est-ce qu'elles sont utiles pour moi. En allemand, on a un cantique qui dit « Dans le ciel, nous ne vont pas rencontrer un Dieu étrange, un Dieu que nous ne connaissons pas. » Mais j'ai peur que nous rencontrions dans le ciel des bénédictions qui sont étranges pour nous, parce que nous ne les connaissons pas. Dans le ciel, comment ? Étrangère, merci. Étrangère. Dans le ciel existe rien du tout que nous ne pouvons pas goûter, que nous ne pouvons pas jouir aujourd'hui déjà. Dans le ciel, il n'y a rien. Certainement, la jouissance sera complète parce qu'il n'y a plus de limites de nos corps faibles comme aujourd'hui. Mais il n'existe rien que je ne peux pas lire dans la parole déjà aujourd'hui. Est-ce que nous connaissons, est-ce que nous jouissons ces choses? Ça nous fait bâtir un autel. Dans le verset 18, « Et il bâtit là un autel à l'Éternel, ou à Hébron. » Hébron veut dire « communion ». Le mot traduit est « communion ». Avec la communion du Seigneur dans le ciel, on va certainement l'adorer, se prosterner devant lui, pour lui donner honneur. Est-ce que nous apprenons des choses par cette vie d'Abraham? De repentir si nécessaire, de revenir si nécessaire, de juger nous-mêmes vraiment, et pas seulement partiellement, de faire des décisions d'après les principes de la parole, et aussi de jouir ce que le Seigneur nous a donné déjà aujourd'hui. Si cela remplit nos cœurs, on n'a pas de tendance envers le monde.
Sauveur qui seul est notre vie, bénis-tu saint étranger ici. Oh.
71, à partir de la strophe 3.
Aussi mes yeux pouvaient sans cesse